Le justicier par André Lichtenberger. Entre l'Inde flamboyante et l'Afrique torride, c'est sur la grande houle refoulée par la mousson la laborieuse chevauchée. Le lourd paquebot fume, âne, roule et rudement secoué. La plupart des passagers sont étendus dans leur cabine. Quelques-uns sommeillent au fémoir. À peine une douzaine de Britanniques invulnérables, au teint recuit, arpentent le pont. Ça et là, nazi, lamentable dans l'immensité, un gramophone. Frileusement enveloppé dans un vaste tartan, l'hindou est assis seul dans un fauteuil d'osier sur la terrasse d'arrière. C'est un long homme, mince, un peu voûté, bronzé, aux yeux de velours, barré par de longs cils. Parmi les cheveux de jais se mélangent sur les tempes des fils d'argent. Les doigts maigres tiennent un livre, entourent lentement les pages. Il est correctement vêtu à l'européenne. Sur son passeport, il y a écrit « Professeur Karu Sawadji de Calcutta ». Il va participer au congrès médical international qui s'ouvrira dans 10 jours au Caire. Venant de Madras, il s'est embarqué à Colombo avec son domestique, un certain Deberamba, gnome minable, au trait marqué de la petite vérole, qui voyage en 3e. Presque tout le jour, le professeur demeure enfermé dans sa cabine parmi ses papiers, ses flacons, ses boîtes et ses pots pleins de substances mystérieuses. Quand il en sort, il erre, solitaire, sur le pont, absorbé dans ses pensées. Si par hasard un passager lui adresse quelques mots, ses lèvres se fendent d'un sourire immuable qui découvre des dents éclatantes. Il répond brièvement en un anglais correct ou en un français approximatif. Et puis ses lourdes prunelles retombent, mettent leur barrière entre son âme et le reste des hommes. De réchef, il est retranché dans le cercle impénétrable de ses pensées. Elles sont redoutables. Car le professeur Karu Sawadji, pour tout de bon, est bien autre chose qu'un savant. Ou plutôt sa science, qui est étendue, n'a point pour but de soulager la souffrance humaine, mais de fournir des armes terribles à la plus sainte des causes. De son vrai nom, il est le Pandit Agamaydan. C'est lui le célèbre révolutionnaire qui, dans le récent congrès nationaliste de Delhi, a qualifié le dogme de la résistance passive de doctrine d'eunuque, de pitoyable paravent derrière lequel, pour demeurer dans l'esclavage, s'abrite cette passivité des races orientales qui, depuis des millénaires, annihilent chez elles tout effort. Soutenu par les acclamations frénétiques de la petite bande de ses partisans, et parmi tantôt le silence consterné, tantôt les murmures d'indignation de la majorité, il lui a opposé les méthodes de la violence véritable accoucheuse du progrès, celles des puritains de Cromwell, des révolutionnaires de 89, des patriotes irlandais, des nihilistes russes. La seule qui puisse imposer la justice, parce que seule elle est capable d'effrayer et d'abattre la tyrannie. Il n'est pas douteux que de la théorie, il n'ait déjà passé à la pratique. Arrêté après l'attentat de Jalpor, une autre fois après celui de Simla, il a dû chaque fois être relaxé. La première fois à cause d'un alibi certifié par plusieurs témoins, mais que valait-il ? La deuxième fois parce que de prétendus coupables se sont eux-mêmes dénoncés. Si peut-être il n'a pas été l'exécutant, il est moralement certain qu'il a été l'inspirateur à préparer les moyens. Le service secret a l'œil sur lui. Surveillé de près, il est cependant arrivé à le dépister. L'Occident ne se doute pas que chaque tour d'hélice du paisible paquebot rapproche de lui un terrible agresseur. Car l'heure est venue de transporter les hostilités dans cet ouest maudit, de frapper l'ennemi dans les positions où il s'estime inexpugnable. Le temps d'apporter aux nationalistes extrémistes de l'Égypte le salut de leurs frères de l'Inde, et le mandataire repartira pour Londres. C'est là qu'il accomplira le geste. Quel geste ? Sera-ce simplement, en plein parlement britannique, le jet d'une bombe à gaz nouveau, engin de destruction effroyable, dont l'action confondra l'imagination ? Ou bien, dans l'arsenal de poisons médico-chimiques qu'il transporte, choisira-t-il pour les libérer des virus inconnus qui parasseaux répétés, d'abord insidieux, de plus en plus précipités et plus violents, installeront l'inquiétude, l'angoisse, la folie dans l'orgueilleuse métropole de l'immense empire de l'or et du sang. Oui, sans doute, c'est la méthode qui est la plus tentante. Oui, une progression de terreur, l'invasion de puissances de cauchemar, des maladies inconnues resserrant d'une emprise atroce, l'ignorance affolée. Affriolé, l'homme passe sa langue sur ses lèvres violâtres. Mais il y a le risque. Non point celui qui le menace personnellement. Sa vie d'avance est sacrifiée, mais celui d'être surpris, découvert, avant d'avoir pu déchaîner la suprême terreur. Alors le plus sage, le plus prudent, si l'on peut dire, ne sera-t-il pas, à peine arrivé, de déchaîner le coup de tonnerre ? Monsieur, dites, est-ce que je puis prendre l'illustration pour maman ? Vous savez, après, je vous la rendrai. L'homme sombre tressaille, ses dents d'ivoire étincelles, avec sa songerie homicide, oh, le délicieux contraste. Devant lui, blonde, rose, mutine, si bien campée et accorte dans son costume de voyageuse, une fillette, a-t-elle 7 ou 8 ans, et debout, lui sourit, tend sa menotte. Il s'empresse de lui offrir le périodique. « Voilà, mademoiselle. Merci, monsieur. Je reviens tout à l'heure. » Elle s'est envolée. Un coup de houle l'a fait glisser, trébucher, et l'éclat de rire se raccroche au bastingage, est déjà loin. L'homme qui l'a suivi des yeux, un soupir. Hélas, dans sa grâce innocente, cet enfant, elle aussi, fait partie de cette race blanche qui abuse si cruellement de la partialité du démiurge en sa faveur. Mesurant son devoir, mettant au service de l'humanité tout entière les dons magnifiques qui lui furent départis, quel jaillissement de bonté, quel épanouissement de justice et de bonheur universel elle pouvait établir sur le globe. Elle n'y a instauré que l'oppression et la misère, le despotisme des privilégiés, l'exploitation sans merci du faible, un régime de sang, de fer et de boue. Toutefois, si la civilisation européenne est damnable dans son ensemble, pêche par son essence même, il est parmi les peuples qui s'en réclament des degrés de culpabilité. Certes, les annales de l'histoire de France sont presque aussi criminelles que celles de l'Angleterre. Pourtant, n'y a-t-il pas dans la tradition de cette nation un moindre égoïsme, un élan généreux, un vœu d'humanité ? Sa grande révolution a maudit l'impérialisme de race, réclamé par l'ensemble des hommes des droits identiques. Même dans l'atroce carnage qui vient de désoler le monde, elle crut incarner, peut-être incarna-t-elle réellement, à certaines heures, un principe de liberté. Voilà, monsieur. Un peu essoufflée, la fillette a reparu. Elle pose la livraison sur la table d'osier. Maman s'est trompée, elle l'avait déjà lu. Alors j'ai rapporté tout de suite. Merci, mademoiselle. Mi-intimidée, mi-curieuse, les yeux bleus dévisagent le monsieur noir au sourire éclatant. Bon, quand on a une parigote, comment résister à la tentation de bavarder ? Dites, monsieur, c'est vrai ce qu'on m'a dit ? Vous êtes un Indien. Alors, n'est-ce pas, vous n'aimez pas beaucoup les Anglais ? L'écran des longs cils se relève et s'abaisse. Non, mademoiselle, pas beaucoup. Il y a un frais éclat de rire. Bravo ! Les deux menottes s'entrechoquent, puis la voix s'assourdit pour la confidence. Quelle chance ! Eh bien, moi, je les déteste. D'abord parce qu'ils ont brûlé Jeanne d'Arc, et puis pour un tas d'autres choses. Si vous voulez, nous serons amis. Comment vous appelez-vous ? Docteur Karou Sawadji. Quel drôle de nom ! Eh bien, moi, on m'appelle Chipette. Chipette Dupin. Nous venons de Saïgon. Papa est déjà en France. Il viendra nous chercher à Marseille. Si l'on est content, ah, bien vous pensez. Et puis il y aura le grand-papa et bonne maman. Et puis vous savez, monsieur, Louli n'a jamais vu la France. Oui, Louli, ma poupée. Alors, vous vous figurez si elle se réjouit. Vous n'avez pas de poupée. Vous n'avez pas non plus de petite fille. C'est dommage. Alors, si vous voulez, pour que vous ne vous ennuyiez pas trop, demain je vous apporterai Louli. Parce que maintenant, vous comprenez, il faut que j'aille des mamans à se lever. Qu'il est dur de demeurer concentré dans l'obsession de la haine. Ah, dans le sein de l'homme, que de douces floraisons s'il laissait s'épanouir les germes naturels qu'il porte en lui. Parmi les images de meurtre et d'anéantissement qui l'obsèdent, quelle diversion apporte au sinistre messager le va-et-vient de la blonde fillette aux yeux de pervenche. Voici que Louli lui est présentée. Elle est jolie, n'est-ce pas, monsieur ? Bien jolie, à coup sûr. Peut-être un peu pâlotte. Elle a eu le mal de mer. Je pense que l'autre soir, elle s'est enrhumée. Eh bien, je vais l'ausculter. Quelle chance ! L'enfant, ravi, guette le manège du praticien. Il a un sourire rassurant. Ce ne sera rien. L'homme tire de sa poche une boîte de bonbons. Mademoiselle Louli sera vite guérie si vous croquez ça à sa santé. Merci, monsieur. L'après-midi, l'entretien reprend, plus familier. Tu sais, monsieur, j'ai mangé 4 bonbons. Ils étaient délicieux. Et Louli va beaucoup mieux. Parce qu'heureusement, maman n'a pas écouté la vilaine Mana Wilson. Mais oui, la dame aux cheveux rouges, la femme du colonel. Elle a dit, figurez-vous, que maman ne devrait pas me laisser manger vos caramels parce que vous êtes indien, qu'il faut se méfier des indiens. Alors j'ai été très fâché. Mais maman s'est moquée. Elle a permis que je prenne les caramels. Vous pensez si j'étais contente? Aussi, quand la dame aux cheveux rouges a eu le dos tourné, je lui ai tiré la langue, comme ça. L'homme rit. Alors vous ne croyez pas que je sois méchant, quoique je sois indien, quoique j'ai la figure noire comme le diable? L'enfant hoche la tête, ses boucles volent, et dressée sur la pointe des pieds, elle murmure à l'oreille de son interlocuteur. Moi, vous savez, je crois que le diable, ce n'est pas vrai. Et puis je vous aime beaucoup. Le diable, ça n'est pas vrai. Parole adorable, divinatoire. Oui, si l'homme ne le créait, le mal n'existerait pas. Ah, sur le dur chemin qui se profile inexorablement, et au bout duquel est la mort, quelle douceur de s'arrêter quelques secondes, pour respirer une fleur, entendre chanter le rossignol. Djibouti, la brûlante escale face à la côte africaine. Avide de fouler la terre ferme, la plupart des passagers, malgré la chaleur, ont quitté le paquebot. Il n'en est pas resté à bord plus d'une vingtaine. Durant presque toute la torride journée, le docteur Clarousse Awadji est resté enfermé dans sa cabine parmi ses grimoires et ses préparations. Mais à l'approche du soir, il est remonté sur le pont respirer quelques parcelles d'air tiédi. Cependant que peu à peu les touristes rentrent et qu'autour du paquebot, les négrillons clapotent et mendient des sous dans l'onde transparente. Voici, avant Port Arfic, la dernière escale. Sans doute fut-il bien avisé de choisir la ligne française, d'éviter Aden, où l'anglais est maître, où peut-être son passage était guetté. Au haut de l'escalier, une frimousse rose surgit, perlée de gouttes de sueur. Ravie d'avoir fait son shopping en pays noir, c'est Chipette. Elle aperçoit son grand ami et son visage s'illumine. « Tu n'es pas venu à terre ?»« Tu as eu raison, il faisait très chaud. C'est laid et c'est sale. Pourtant, je m'ai amusé, et puis regarde, j'ai acheté un collier de coquillages pour Loli. » Apparaissant à son tour sur le pont, Madame Lupin cherche des yeux sa fillette. Elle interroge une dame anglaise qu'elle croise. « Vous n'avez pas vu Chipette ?» D'un hochement sec du menton, l'insulaire désigne l'enfant en train de bavarder avec l'hindou. « La voilà déjà auprès de cet affreux colored man. »« Je pense, madame, excusez-moi, que vous devriez lui défendre, sans compter qu'il circule sur lui des rumeurs fâcheuses. » Madame Dupin toise d'un coup d'œil le groupe formé par l'hindou et la fillette. Elle parle avec animation, la poupée est à cheval sur les genoux maigres de l'homme. Bon, quel mal peut-il y avoir? L'inconnu a un regard très doux, presque féminin. Très doux, mais qui peut tout à coup se durcir. À telle enseigne que Chipette elle-même demeure surprise de la manière dont tout à coup son compagnon dévisage une sorte de géant blond, vêtu de kaki, qui assis là-bas au bar, s'éponge le front et se fait apporter un whisky soda. Et tout de suite, elle se dépêche de le renseigner. « Tu regardes ce monsieur ? C'est un nouveau. Il vient de monter. Il paraît que c'est comme un gendarme anglais. Est-ce que tu le connais ?»« S'il le connaît. Ah, certes. Si les Anglais dans l'Inde ont leur police, comment les opprimés n'auraient-ils pas la leur, mille fois plus nombreuse et plus informée ?» Qui n'aurait pas inscrit dans sa mémoire les traits de l'un des agents les plus actifs, les plus redoutables du Secret Service ? Richard Beverley, spécialiste des missions délicates et scabreuses, où il faut tenir la finesse et la poigne. C'est à lui qu'est due l'arrestation de Gangui et de Chandar Pudnod. Pourquoi est-il à bord? Tu regardes le monsieur? Mais je t'ai dit, il est monté tout à l'heure avec son serviteur indien, hein? À 6 heures, la sirène meugle. Les sonnettes chassent du bord les trafiquants indigènes. Et lentement, le paquebot se remet en route vers Bab el Mandeb, qui commande le torride corridor de la mer Rouge. Suez est au bout. Le soir, après dîner, Clarousse Awadji descend d'un pas léger l'escalier qui mène au 3e. À côté du canodé, dans l'ombre, un homme l'attend, son domestique. Son domestique. Ils sont seuls. Clarousse porte à ses lèvres un coin du vêtement de bure maculé qui couvre l'autre. Car celui qui commande, celui qui a reçu l'investiture des puissances et dont nul ne sait le nom, c'est cette espèce de monstre au teint verdâtre, à la face épatée, trouée de la petite vérole. Une flamme, lui, dans ses yeux. C'est lui qui possède les mots magiques, tient les fils invisibles qui nouent le mouvement hindou avec le bolchevisme russe et la révolution européenne. car Rusawaji n'est que l'instrument. C'est l'autre qui dirige. Entre ses dents ébréchées, il siffle. Tu l'as vu, j'ai fait parler son domestique. De chez nous? Pas même. Un misérable métis, aussi bête que vil. Il t'a nommé. Ta présence est signalée. La police égyptienne te guette. Au débarquement, à Port Turfik, on te met la main au collet, et puis c'est fini. Karou Sawadji incline la tête, se tait quelques secondes. Alors, maître, que décides-tu? Les mâchoires de l'homme se contractent. Il va essayer. En 4 jours, peut-être, il y aura l'occasion de frapper l'agent anglais. Mais c'est chanceux. Beverley, le grand Beverley, ce n'est pas le premier venu. Il doit se garder. Pourtant, j'aurai l'œil sur lui. Mais une chose ne sera pas. Impossible de se laisser prendre comme un rat au piège. Avant de périr, dans tous les cas, il s'agit de frapper un coup. Écoute-moi. Et la voix rauque éructe l'ordre. Tu as le moyen, n'est-ce pas? Avec les forces dont tu disposes d'anéantir ce bateau, de le faire disparaître, qu'aurait bien. Eh bien, voici. Si d'ici 4 jours, l'occasion ne s'est pas offerte, il faut que rien de ce qu'emporte ce paquebot ne revoie jamais la terre. M'as-tu compris? Et comme le médecin ne répond pas, un sifflement menace. M'as-tu compris? L'homme incline la tête. J'entends, mais as-tu réfléchi? La voix implacable répond. Oublies-tu donc ton vœu d'obéissance, toi qui oses demander au maître s'il a réfléchi? Oublies-tu que tu as juré de servir aveuglément ou de mourir? Un éclair jaillit de l'œil de velours que recouvre aussitôt la barrière des longs cils. Moi, oublié, pour qui me prends-tu? Il toise avec un dédain où il y a de la haine la face de cauchemar. Que le maître ne craigne rien, je tiendrai mon serment. Les traits sinistres s'éclairent. À la bonne heure. Ils prendront leurs mesures pour, dans le naufrage, essayer de s'échapper, de gagner la terre. S'ils échouent, plusieurs messages enfermés d'avance dans des bouteilles jetées à la mer, au moment suprême, signifieront au monde prétendu civilisé l'arrêt implacable qui vient d'être rendu. Durant 3 jours suffocants, le paquebot allait dans la fournaise. Demain matin, à la première heure, le phare de Suez sera signalé. Mais auparavant, du gigantesque navire, il ne demeurera que des épaves ballottées sur les eaux. Comme s'il avait le sentiment de la menace qui le guette, Richard Beverley est demeuré inapprochable. Impossible, sans se démasquer, de risquer le coup. C'est donc, irrévocablement, l'autre solution qui s'impose. Avec minutie, le docteur Karou Sawadji consacre son dernier après-midi à mettre au point l'engin d'une puissance inconnue qui développera en quelques secondes une force destructive quasi inimaginable. En voici vérifier la composition chimique, le mouvement d'horlogerie, tout est paré. Au coucher du soleil, il remonte sur le pont, embrasse du regard l'horizon flamboyant, s'enivre encore une fois de la prodigieuse féerie de la lumière. La soirée est d'une gloire indicible. Ah, qu'il pourrait y avoir sur la terre de beauté, de paix, de douceur et d'amour. Alanguis sur les fauteuils, les passagères élégantes échangent des paroles joyeuses. Des rires fusent, des flirts se poursuivent. De tout cela, à l'aube de demain, il ne restera rien. Bonjour, monsieur. Est-ce que tu étais malade? Tu sais, Loli a eu une indigestion. Et j'étais très triste parce que tu n'étais pas là. Si j'avais su le numéro de ta cabine, je t'aurais cherché. Est-ce que tu es guéri? Ah, remontée de l'enfer, l'homme aux atroces pensées contemple le mutin visage qui lui sourit, pétillant de grâce puérile. Il tressaille, balbutie avec peine. Ah, c'est toi. Est-ce que tu es fâché contre moi? Moi, ma petite amie? Tu sais, il ne faut pas être triste, parce que si les autres sont méchants, moi, je t'aime. Et maman m'a dit que j'avais raison. Tu te souviens le monsieur rouge, le monsieur anglais qui est monté à Djibouti? Elle s'est beaucoup, beaucoup fâchée avec lui parce qu'il a prétendu que tous les Indiens c'était de la canaille. Alors elle a dit que ce n'était pas vrai, que les Anglais leur avaient volé leur pays, qu'ils avaient le droit de le défendre. Alors il a été grossier, a dit des vilains mots, et maman s'est mise en colère, lui a répondu que si papa était à bord, il n'aurait pas parlé comme ça 2 fois, et moi, quand je le verrai, je lui dirai qu'il est un menteur et un méchant. Et l'enfant frappe le pont de son petit pied cambré. Les narines ouvertes, elle hume la vie. La flamme du couchant auréole d'or et de pourpre le frais visage. Machinalement, l'homme comprime de sa main maigre son cœur qui bat. Il vise, les yeux agrandis, cette forme gracieuse, gamine. Une si fraîche énergie, une volonté si ardente vers le bien. La race dont elle est issue a donné à l'humanité quelques-uns de ses mots magiques les plus beaux. En vérité, se peut-il que demain? Arrière, mollesse congénitale de l'oriental qui, succédant à chaque effort de volonté, le réduit, le paralyse, interdit l'acte, le voue éternellement à la passivité, à l'esclavage. Arrière, lâcheté maudite. Lâcheté, est-ce bien lâcheté? Y renonçant, n'abdique-t-il pas, au contraire, la seule supériorité qui le différencie des races de proies, le respect absolu de toute vie, le culte de l'amour parfaitement pur, le désaveu de toute violence? Si à son tour, fût-ce pour la plus belle des causes, il se met à frapper, à tuer, à détruire, où est sa vertu? Ah, qu'échappent mille coupables, plutôt que de condamner un seul innocent! Tu n'es pas fâché, monsieur, parce que j'ai dit ça. Ta figure est triste. Fâché. L'homme attire à lui le corps gracile, plonge ses yeux dans les prunelles de pervenche, pose encore une fois sa main maigre sur les cheveux d'or, les caresse. Quelques secondes, tous deux demeurent muets, immobiles. Enfin la fillette se dégage. « Tu sais, monsieur, il faut que je va dîner. Écoute. » L'Indien retient imperceptiblement la menotte dans sa paume. « Écoute. Demain, nous ne nous reverrons plus. C'est vrai, tu pars ?» Elle s'attriste. « Oui, je pars. Alors dis-moi. » Quoique ma peau soit si noire, pour me dire adieu, tu ne veux pas m'embrasser. Il n'a pas achevé que de lèvres fraîches se posent sur les joues sombres. Le docteur Carousse à Wadji est rentré dans sa cabine. Le hublot s'ouvre directement sur la mer. Avec sa soudaineté ordinaire, la nuit est tombée. Qui verrait le médecin précipité tour à tour dans les flots, les flacons alignés sur la table, les boîtes, les tubes, l'effrayant appareil de meurtre que tout à l'heure il a préparé, et tout le reste de sa sorcellerie? Il ne reste qu'une petite boîte ronde contenant des pilules. Il en avale deux, jette le reste par la fenêtre avec quelques suprêmes papiers minutieusement déchirés, puis il s'étend, soupire deux ou trois fois, et enfin s'endort d'un sommeil très lourd. D'un sommeil si lourd que dans la nuit, c'est en vain qu'un doigt frappe précautionneusement à sa porte. À l'appel de Deveramba, rien ne répond. Le gnome réfléchit une seconde et lentement, d'une pesée, fait sauter la serrure. Devant ce qu'il aperçoit, une grimace de mépris plisse son mufle. Il pose un instant son oreille sur une poitrine immobile, grince des dents, crache sur un visage blêmi et disparaît. Au matin, voyant ouverte la porte du voyageur hindou, le garçon de service, qui sait qu'il descend à Suez, pénètre dans l'embrasure pour enlever le bagage. À l'aspect d'une forme rigide, il recule. « Bon Dieu de bon Dieu !» Appelé en toute hâte, le médecin du bord ne peut que constater le décès. Arrêt du cœur, vraisemblablement dû à l'abus des stupéfiants. Ces orientaux sont tous les mêmes. Malgré les précautions prises, la nouvelle pénètre, filtre parmi les passagers, n'est pas sans causer quelques émoi. D'autant qu'à la mort du docteur exotique s'ajoute la disparition de son domestique. Les imaginations s'en donnent. Il paraît que Richard Beverley a lancé un énorme juron. On se sent en plein Conan Doyle. Mais déjà le navire a mouillé. Voici la santé. La fourmilière s'affaire au visa des passeports. Pendant que le bateau traversera le canal, les privilégiés ont le temps de gagner le Caire à travers le désert. Ils rejoindront ensuite à Port Saïd. Vous êtes des nôtres, Madame Dupin? Mais la jeune femme s'excuse. Elle craint la fatigue de l'excursion. Et puis j'ai besoin de consoler ma pauvre chipette. Pleurant à gros sanglots son ami noir, la fille tamponne indéfiniment d'un mouchoir ses yeux rougis. Qui soupçonne que sans cet enfant, parmi cette humanité grouillante, nul vivant n'aurait aujourd'hui vu se lever cette aurore? Ainsi s'achève Le Justicier par André Lichtenberger.